Voici une question dont la réponse pourra changer le cours de votre existence. Est-ce que Jésus est le seul chemin pour aller au ciel? La parole de Dieu va mettre la lumière sur cette question une fois pour toutes aujourd'hui à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, si vous posez des questions à Dieu, et que vous voulez réellement en connaître ses réponses dans le but de faire sa volonté, c'est certain que vous allez comprendre clairement les réponses qu'il va nous donner aujourd'hui. Voici nos questions. Pour qui le repas du Seigneur est-il plus qu'un rituel? Pourquoi certaines personnes sont-elles déçues de Dieu? Pouvons-nous aller ailleurs qu'à Jésus pour avoir la vie éternelle? Est-ce qu'il y a autant de controverses aujourd'hui au sujet de Jésus qu'il n'y en avait il y a 2000 ans? Est-ce que Marie, la mère de Jésus, est demeurée vierge toute sa vie? Est-ce que Jésus a suivi le plan de son Père du ciel? Lui est-il arrivé de suivre les conseils des hommes? Restez avec nous. Les réponses ne vont pas tarder. Le pasteur Régent Joly les a toutes trouvées dans la Bible, dans le grand livre de Dieu. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il nous donne des cœurs sincères pour recevoir ses réponses. Prions. Ô Seigneur, nos cœurs sont sincères devant toi et on te demande de les garder sincères pour que tu puisses vraiment les toucher par ta parole et qu'on puisse être purifié par ta parole. Parle-nous, Seigneur, viens nous instruire. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Jésus a affirmé être le pain de vie. Ce discours faisait suite au miracle de la multiplication des pains. Jésus répondait à la foule qui voulait le faire roi, tout en enseignant ses disciples. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 53 à 58. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis. » Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Mes amis, cet énoncé est étonnant. Le Seigneur prépare ses disciples pour la dernière scène et l'institution du repas du Seigneur. Ces paroles ne doivent pas être prises littéralement, car Jésus se trouvait avec eux. Jésus ne demande certainement pas à ses disciples de le découper pour le manger et de boire son sang. Ici, l'idée de manger le corps de Jésus et de boire son sang est une métaphore. Ce n'est que plus tard qu'il instituera le rite de la communion ou du repas du Seigneur. Ce qu'il dit, c'est qu'il va donner sa vie pour eux. Dans la chambre haute, Jésus a clairement indiqué que le sang était le symbole de la vie. Car la vie de la chair est dans le sang. Lévitique, chapitre 17, verset 11. Dès les débuts, alors qu'il appelait son peuple hors d'Égypte, Dieu leur avait enseigné cette vérité. Au mont Sinaï, Dieu leur a enseigné que la vie de la chair est dans le sang. Ce qui est vrai sur le plan médical. La vie de la chair est dans le sang. Et Jésus est sur le point de donner sa vie. Il va verser son sang à la croix et donner sa vie. Le salut s'obtient en acceptant et recevant le Seigneur Jésus d'une façon très intime. Ceci est le fondement du repas du Seigneur. Mes amis, les chrétiens ont émis des opinions différentes sur ce point au cours des siècles. Tout comme le baptême, le repas du Seigneur fut interprété de bien des façons. Les désaccords ne furent pas aussi profonds qu'avec le baptême, mais il y en a tout de même eu. Ceci est mon corps. Lorsque Jésus a rompu et distribué le pain lors de l'institution de la Sainte-Cène, dans la chambre haute, il a dit « Ceci est mon corps ». Luc, chapitre 22, verset 19, ces paroles sont interprétées de plusieurs façons. Certains mettent l'accent sur le corps. Ils enseignent qu'à la consécration, le pain devient le corps de Jésus-Christ. Cela s'appelle la transubstantiation. D'autres préfèrent parler de consubstantiation. Ceci signifie qu'avec, dans, à travers et sous le pain, nous mangeons le corps de Christ. Autrement dit, le pain demeure du pain, mais en le mangeant, nous absorbons le corps de Christ. Cependant, ces deux théories ne peuvent pas expliquer toutes les paroles du Seigneur Jésus. D'autres affirment que le pain et le vin demeurent du pain et du vin, et qu'aucun miracle ne se produit lors du repas du Seigneur. Nous ne pouvons absorber le corps de Christ par un rituel. Cependant, le repas du Seigneur est plus qu'un rituel. Le repas du Seigneur est du pain dans ta bouche et le Seigneur Jésus dans ton cœur. Tout ceci a un sens spirituel. Finalement, il y a ceux qui enseignent que le pain et le vin sont strictement symboliques. Le pain et le vin sont pris en mémoire du sacrifice à la croix. On en peut recevoir le Seigneur Jésus dans notre cœur d'une façon mécanique, mais seulement en lui ouvrant notre cœur. Donc, le repas du Seigneur est un rappel de l'œuvre de Jésus à la croix et il n'a de valeur que pour ceux qui le prennent d'un cœur reconnaissant pour le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour les sauver. Sans une foi sincère, le repas du Seigneur n'est qu'un rituel sans valeur. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de miracle dans le repas du Seigneur. Si notre participation n'est pas le fruit d'un cœur obéissant et sincère devant Dieu, si elle n'est pas le fruit du fait que nous sommes sauvés, qu'importe l'interprétation que vous donnez au rituel, celui-ci n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Celui qui participe au sacrifice de Christ, en le recevant comme Seigneur et Sauveur, jouit d'une communion avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ demeure en lui et lui dans le Seigneur. Voilà la véritable signification du repas du Seigneur. C'est ce que Jésus rappelle en parlant de la manne dans le désert. Les Israélites ont mangé cette manne, mais ils sont tout de même morts. Maintenant, Jésus propose quelque chose dont la portée est éternelle, soit la vie éternelle. Nous avons vu au début de cet évangile que, en elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 1, verset 4. Le concept de manger la chair de Jésus et de boire son sang implique une relation très intime avec lui. Jésus demeure en lui et le croyant demeure en Jésus. La nourriture que nous absorbons pénètre en nous pour devenir et devient une partie de nous. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie, il demeure continuellement en nous. De plus, Jésus compare la relation intime qu'il a avec le croyant à celle qui existe entre lui et son Père depuis l'éternité. Malgré l'incompréhension du monde, Jésus est demeuré avec son Père. Il a accompli sa volonté et demeura dans une intimité profonde avec son Père. De même, les vrais croyants sont haïs et incompris du monde. Souvent, ils sont persécutés. Cependant, s'ils cultivent une relation intime avec Dieu, ils vivent dans le Seigneur Jésus, tout comme Jésus vivait dans le Père. Poursuivons notre lecture. Versets 59 à 63. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Nous voyons ici qu'un triage se fait. Nous observons plusieurs réactions aux paroles de Jésus, ainsi que plusieurs opinions différentes. Jésus leur dit qu'ils ne le mangeront pas littéralement, puisqu'ils retournent au ciel. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc, il est évident que Jésus ne parle pas de son corps de chair. C'est par la foi que nous prenons le repas du Seigneur. Le jus ou le vin que nous prenons laisse une saveur douce dans notre bouche. Mais Jésus a bu la coupe amère en subissant la crucifixion pour nous. Parce qu'il a fait cela, je peux boire de la coupe qui a une saveur douce. Cette coupe rappelle son sang versé à la croix pour moi. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est pourquoi de nombreux pasteurs et ministres lisent une portion des Écritures en prenant le repas du Seigneur. La parole parle au cœur des gens. Pourquoi? Parce qu'elle est esprit et vie. Seul l'esprit peut donner la vie. La chair ne le pourra jamais. Jésus dut expliquer que ses paroles étaient esprit et vie. Les disciples ne pensaient pas encore en termes spirituels. Versets 64 et 65. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. N'oubliez pas que ces paroles viennent avec celles qui disent, quiconque le désire peut venir. C'est à vous, chers amis, de répondre à l'appel de Dieu. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allèrent plus avec lui. Le triage est fait. Certains étaient des chefs hostiles à l'enseignement de Jésus. De plus, il y avait de nombreux autres disciples à part des 12 choisis pour devenir apôtres. Parmi les 12, il y avait Judas. Donc, nous avons des représentants des 4 coins de vue différents au sujet du Seigneur Jésus. Plusieurs de ses disciples ont cessé de suivre Jésus. Et vous, êtes-vous déçu par Dieu? Lorsque les gens commencèrent à comprendre l'enseignement de Jésus, ou du moins sa portée, cela ne faisait plus leur affaire. Nous voyons l'enthousiasme vis-à-vis Jésus fondre alors qu'il dit clairement qu'il n'est pas un messie politique. Jésus n'allait pas délivrer le peuple de Rome. Vous, avez-vous cessé de suivre Jésus parce que les choses ne sont pas produites conformément à vos attentes? Êtes-vous déçu par Dieu? Jésus est venu pour ramener les gens à Dieu, pour restaurer leur âme. Pas pour nous servir dans le sens de répondre à tous nos désirs égoïstes. Jésus est venu nous apporter la joie profonde d'une communion rétablie avec Dieu. Mais se peut-il que vous ayez été déçu parce que votre idole était le succès professionnel, une bonne famille, la reconnaissance et l'admiration de vos pères? Versets 67 et 68. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Si vous rejetez le Seigneur Jésus, à qui iriez-vous? Quelle réponse merveilleuse de la part de Simon-Pierre! Et la question qu'il pose est encore actuelle aujourd'hui. Si vous dites que le Seigneur Jésus n'est pas votre Sauveur et qu'il ne répond pas à vos besoins, alors vers qui allez-vous? Vers qui allez-vous aller? Bien des gens se tournent vers des gourous de toutes sortes, mais de grandes déceptions les attendent. À tous ceux qui cherchent, dans toutes les directions, je vous pose la question de Pierre. À qui irions-nous? Le Seigneur Jésus est le seul et il a les paroles de la vie éternelle. Confiez-vous en lui. Versets 69 à 71. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. Certaines choses au sujet de Judas Iscariote sont mystérieuses. Le Seigneur le compte parmi les douze et il affirme l'avoir choisi. Pourquoi? Il était un démon, ce qui signifie probablement qu'il était possédé du démon. C'était l'homme qui allait trahir Jésus. Pendant son ministère, le Seigneur Jésus lui a donné de nombreuses occasions de le recevoir et de prendre position pour lui. C'est difficile de comprendre une telle méchanceté, mes amis. C'est un mystère. Le mal est toujours un mystère, et c'est un des éléments qui le rend si attrayant. Supposons que je tienne deux bâtons. Un des bâtons est parfaitement droit, parce que c'est une règle. C'est facile d'imaginer une règle, car il y a une seule façon d'être droit. Maintenant, supposons que je vous dise que l'autre bâton que je tiens est croche. Si je vous demandais de dessiner le bâton que vous imaginez, tous vos dessins seraient différents les uns des autres. Il y a des millions de manières que ce bâton peut être croche, voyez-vous. Il y a un aura de mystère autour du mal. Donc, je trouve difficile de comprendre Judas alors que nous le rencontrons dans la Bible. Et ici, Jésus dit une chose étonnante à son sujet. Il dit que Judas est un démon. C'est tout un contraste avec le témoignage de Simon-Pierre. Nous croyons et nous sommes certains que tu es le Fils du Dieu vivant. Voilà la vérité qui sort de la bouche d'un des siens, d'un de ses disciples. Maintenant, nous passons au chapitre 7, verset 1er. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Après cela, Jean, qui respecte un ordre chronologique, emploie souvent cette expression. Les événements du chapitre 6 se sont produits en Galilée, sur le bord de la mer. Mais auparavant, Jésus avait fait une visite à Jérusalem où il avait provoqué une controverse à son sujet en guérissant un paralytique à la piscine de Bethesda. Il semble que les événements du chapitre 6 se soient produits un an avant la crucifixion. Les événements du chapitre 7 se sont probablement déroulés 6 mois plus tard, en octobre. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 18, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 7, verset 9, et dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9, nous avons le récit d'événements qui se sont produits pendant cette même période. Pendant la dernière année de son ministère, Jésus a restreint ses activités à la Galilée. Il n'a plus parcouru la Judée parce que les chefs religieux voulaient le faire mourir. Le Seigneur suit le calendrier planifié par son Père céleste. Personne ne pouvait le toucher avant que son heure ne soit venue. Donc, nous sommes maintenant dans les 6 mois précédant la crucifixion et le premier incident rapporté par l'apôtre Jean s'est déroulé pendant la fête des tabernacles. Le premier verset est annonciateur de la tempête à venir au sujet de la personne de Jésus-Christ. Dans 6 mois, celle-ci éclatera dans toute sa fureur alors que le Messie sera crucifié. Mes amis, cette tempête n'est pas terminée. Les opinions au sujet de Jésus-Christ sont aussi variées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient alors. Aucun personnage historique n'est aussi controversé que ne l'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est blasphémé de toutes parts et on répète des atrocités à son sujet. Le Seigneur Jésus provoque encore la controverse aujourd'hui. Quoique la tempête approche, Jésus va à Jérusalem à l'occasion de la fête des tabernacles comme l'exige la loi mosaïque. Il quitte la sécurité de la Galilée. Verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Tous les hommes juifs devaient se rendre à Jérusalem pour assister à trois fêtes. La loi mosaïque l'exigeait et le Seigneur Jésus respectait la loi qu'il était venu accomplir. Donc, Jésus montait toujours à Jérusalem à la Pâque, à la Pentecôte et à la fête des tabernacles. La fête des tabernacles est décrite dans le livre du Lévitique, 23e chapitre. C'était une célébration joyeuse pour se commémorer leur libération de l'esclavage en Égypte. Parce qu'ils avaient vécu sous des tentes pendant leur séjour dans le désert, ils devaient vivre sous des tentes pendant la fête des tabernacles. Les trompettes sonnaient et on sacrifiait 70 bœufs. On versait de l'eau dans le temple et le dernier jour, on en versait une quantité deux fois plus importante. Ceci était un rappel que Dieu les avait abreuvés avec de l'eau d'un rocher. Ils apportaient de l'eau de la piscine de Siloé et ils en versaient de nombreux barils. Cette fête était une image du Seigneur Jésus. En effet, le dernier jour de la fête, il s'est écrié dans le temple. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Jésus parlait de l'Esprit que recevraient ceux qui croiront en lui. Jésus était le rocher spirituel duquel buvait le peuple dans le désert. En effet, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, nous lisons « Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Poursuivons notre lecture. Jean chapitre 7, verset 3 à 5. « Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici, et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Marie éleva une famille comme toutes les femmes. Les frères dont on parle ici n'étaient pas ses disciples, mais ses demi-frères. L'apôtre Matthieu nous a donné leur nom dans son évangile. Jacques, José, Sim et Judas. Notez que Marie n'est pas demeurée vierge toute sa vie. Après la naissance de Jésus, elle a vécu une vie normale. Elle a eu des filles en plus des garçons mentionnés ici. Son demi-frère, Jacques, a rédigé l'épître de Jacques, et c'est probablement Judas, frère de Jésus, qui a rédigé l'épître de Jude. Ceci se produisit beaucoup plus tard. Au moment de ces événements, ils ne croyaient pas encore en Jésus. Verset 6. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Jésus suivit le plan de son Père. Jésus a observé le plan de Dieu pour sa vie. Et toi, es-tu prêt à accepter le plan de Dieu pour ta vie? Chers amis, préparez-vous pour la prochaine émission en lisant Jean chapitre 7, versets 7 à 53.
Merci beaucoup, Régent. Je suis toujours étonnée quand je vois les gens du temps de Jésus qui ont cessé de le suivre quand ils ont su que Jésus n'était pas un messie politique qui allait délivrer le peuple juif de Rome. Et je suis aussi étonnée de voir les gens d'aujourd'hui qui abandonnent Jésus parce que les choses ne se produisent pas conformément à leurs attentes sur le plan professionnel, familial, social ou autre. Ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils regardent au-delà de leur vie terrestre. Un pasteur a dit un jour dans une de ses prédications que notre vie terrestre était comme une seconde sur l'horloge de l'éternité. Et c'est donc vrai. Quand bien même je vivrais jusqu'à l'âge de 100 ans, qu'est-ce que c'est comparé à l'éternité? C'est pour ça que j'ai accepté Jésus comme sauveur et seigneur de ma vie. En premier, je cherchais un moyen de m'en sortir dans mes déboires sur le plan professionnel et aussi dans mes problèmes de cœur, étant toujours déçu en amour. Je cherchais l'amour parfait et j'avoue que je ne pensais même pas à l'éternité. Mais un jour, quelqu'un est venu me dire qu'il y a bien plus que la courte vie qu'on a sur cette terre, mais que pendant le temps où nous vivons ici, on a à faire un choix concernant l'endroit où on va passer l'éternité. J'ai appris que je pouvais passer l'éternité soit en enfer ou au ciel. Je sais bien que personne n'aime entendre parler de l'enfer, mais on ne peut pas en nier l'existence, puisque le Seigneur en parle lui-même dans sa parole, dans la Bible. Et j'ai appris que je pouvais choisir d'aller au ciel pour être avec Dieu pour l'éternité, dans la joie, dans la paix, dans la parfaite harmonie, là où règne l'amour parfait, l'amour de Dieu. J'ai appris que Jésus seul était le chemin qui mène au ciel, la vérité et la vie. Et au moment où Jésus a frappé à la porte de mon cœur, j'ai ouvert la porte et je l'ai laissé entrer. Mon ami, tu vas peut-être me demander, « Caro, comment est-ce que Jésus frappe à la porte de mon cœur? » Eh bien, il frappe à la porte de ton cœur en ce moment. Le jour où j'ai reçu Jésus comme sauveur, son esprit est entré en moi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui me donne en ce moment les paroles dont tu as besoin pour savoir comment passer l'éternité avec Dieu, comment ne pas passer l'éternité en enfer. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Mon ami, crois-tu au Seigneur Jésus? Eh bien, crois et tu seras sauvé. Reconnais que tu es un pécheur perdu, que tu ne peux pas te sauver toi-même. Dieu t'a donné le moyen, et ce moyen, c'est le Seigneur Jésus qui a payé la dette de ton péché quand il est mort sur la croix. Ensuite, il est ressuscité, il est vivant, et c'est lui qui t'appelle à te repentir et à le recevoir comme sauveur et maître de ta vie. Entends-tu Jésus frapper à la porte de ton cœur en ce moment? Ouvre la porte. Il va entrer chez toi et tu vas être à lui pour l'éternité.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine à tous!
Et à lundi!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.